Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu. Matthieu, chapitre 9. Nous sommes rendus à la toute fin du livre de du chapitre 9 du livre de Matthieu. On va se courber tout de suite dans un mot de prière ensemble, s'il vous plaît, d'accord? Père céleste, nous sommes assemblés en église ce matin. La famille de Dieu, tes enfants se sont assemblés pour le jour du Seigneur, pour ce jour de repos, pour venir se reposer dans ta parole, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est parce que nous croyons, Seigneur, que le repos se trouve auprès de toi, que la vraie vie se trouve auprès de toi, Seigneur. Seigneur Jésus, notre bon berger, tu t'es fait connaître à nous et nous avons compris pourquoi nous vivons sur cette terre. C'est pour te glorifier et trouver notre paix en toi, notre repos en toi. Père, j'aimerais te prier pour quelques besoins. Comme peuple de Dieu, comme famille, nous voulons intercéder en faveur de tes enfants. Nous voulons penser à Diane Lalonde, qui est encore une fois hospitalisée. Ça demande une grâce particulière, Seigneur, pour porter la maladie pendant tant d'années. Et plusieurs dans l'Église l'expérimentent. Et simplement de les voir persévérer dans la foi, Seigneur. Ne pas suivre le conseil de l'épouse de Job, se tourner vers toi, maudire ton nom et mourir, mais persévérer dans la foi à travers des années de maladie. N'est-ce pas l'œuvre de ta grâce dans leur vie, Seigneur? Alors, à ce moment précis, Père, nous voulons te demander d'étendre ta grâce, encore une fois, sur Diane qui est hospitalisée. Tant de fois, Seigneur, elle s'interroge, pourquoi me laisses-tu ici si c'est pour souffrir toujours ainsi, Seigneur? Es-tu l'encouragée cette semaine alors qu'elle a pu témoigner à l'hôpital? Je te prie, Père, de l'encourager encore. Donne-lui des occasions. Et aide-nous, Père, à être sensibles comme famille pour être auprès de toutes ces personnes qui portent les maladies pendant tant d'années. Aide-nous, Seigneur, à toujours garder les yeux ouverts, à ne pas fermer les yeux, à ne pas les oublier à force d'habitude, Seigneur. Mais à souligner la grâce qu'on voit dans leur vie. Père, j'aimerais te prier pour tous ces jeunes enfants que tu nous confies. Quelle grâce merveilleuse, Père! Seigneur, nous voulons les porter dans la prière. Et tous ces enfants qui sont plus vieux, nombre d'entre eux, Seigneur, ne t'ont pas encore donné leur vie. Tant de parents dans cette salle souffrent de voir leurs adolescents ne pas faire le pas encore pour venir passer par les eaux du baptême, s'engager entièrement, Seigneur, pour toi. Nous te prions pour cette jeunesse, Seigneur. Parce que la conversion, c'est un miracle. C'est toi qui l'as produit en nous. Marcel en a témoigné tout à l'heure, Seigneur. C'est toi qui interviens dans nos vies, dans des vies desséchées, dans des corps et des âmes sans vie, pour nous amener à reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous te prions pour cette jeunesse, Seigneur. Tous ceux d'entre eux qui ne te connaissent pas, qui ne vivent pas pour toi encore, Seigneur. Viens faire grâce au Dieu. Viens sauver. Et nous te prions pour ces petits-enfants, Seigneur. Viens les sauver. Dans les années qui viennent, montre-nous, Seigneur, que tu leur as exposé l'Évangile à travers leurs parents, à travers l'école du dimanche, à travers la vie de cette église, Seigneur. Nous voulons les porter déjà dans les prières. Mets ta main sur leur santé, mets ta main sur leurs parents. Donne à leurs parents, Seigneur, d'avoir un cœur entièrement consacré à toi. Sois le berger, Seigneur, intime de ses parents, afin qu'ils puissent conduire leurs enfants à Christ. Je t'en prie, Père. Seigneur, enfin, je veux te prier pour nous ce matin, tous ceux et celles qui sont assemblés ici, ceux qui ne te connaissent pas intimement comme leur berger personnel, fais-leur grâce, Seigneur. Fais-leur grâce, Seigneur. Révèle-toi à eux ce matin. ceux d'entre nous qui te connaissons et qui nous sommes éloignés de toi, qui t'avons perdu de vue, Seigneur, qui avons perdu le berger de vue. Viens, Seigneur, attendrir notre cœur pour que ta parole puisse pénétrer à l'intérieur. Viens nous bénir, Seigneur, en nous montrant notre cœur parfois. Viens nous bénir, Seigneur, en nous rappelant ta compassion ce matin, ton amour et ta tendresse, Seigneur. Viens nous bénir en nous parlant ce matin. Et parce que toute cette œuvre dépend de toi et de ta puissance, Seigneur, c'est avec confiance que nous attendons de belles choses pour chacun d'entre nous ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Matthieu 9, versets 35, 36, 37, 38. Normand a été gracieux avec moi. Je devais aller beaucoup plus loin dans le passage, mais je me suis perdu dans ce texte, touché par la personne de Christ, touché par son amour, touché par la personne de Dieu. Et Normand a accepté de prendre la relève un petit peu plus tôt dans le texte dimanche prochain. Alors vous allez avoir la suite. C'est vraiment la suite est vraiment imbriquée avec cette première partie-là. Verset 35, Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Remarquez dans le passage l'intensité. Jésus veut nous communiquer l'intensité du ministère de Jésus à ce moment-ci. Matthieu nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, qu'il enseignait la bonne nouvelle du royaume, qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Jésus se donne à fond à ce moment-ci pour le ministère du royaume. C'est extrêmement intense comme travail. Si on considère seulement la Galilée, on parle de 200, approximativement 200 villes et villages. Le voyage se faisait à pied. Si Jésus couvrait deux villages par jour, il y en avait pour plus de 3 mois de travail. Et lorsqu'il arrivait dans une ville, dans un village, si sa réputation ne le précédait pas, ses actions créaient tout de suite un buzz, excusez-moi, une rumeur à travers le village, à travers la ville. Il y a un homme qui prêche comme aucun homme n'a prêché. Et il y a un homme qui opère des miracles, comme aucun homme n'en a opéré. Alors les foules se pressaient vers lui, les gens venaient à lui. Littéralement, ce qui nous est dit dans les chapitres qui précèdent, dans le chapitre 9, c'est que les foules se pressaient autour de lui tellement que des fois des gens venaient le toucher simplement pour être bénis et guéris en le touchant. C'est ce qu'on a vu dans le texte, un tout petit peu avant. Jésus se donne à fond. Le travail est très, très intense. Et c'est comme si Matthieu nous disait qu'à travers toute cette œuvre, à travers tout ce ministère, Jésus était frappé encore une fois. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici, qui nous parle de l'humanité de Christ, parce que Jésus va être frappé par ce que ses yeux voient. Verset 36. Après avoir opéré tout ce ministère, alors qu'il se donne à fond pour les âmes, pour ces foules qui périssent faute de connaissance, qu'il annonce la bonne nouvelle du royaume, verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion. » Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans le texte. Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus, alors que Christ est venu s'incarner, devenir homme, est-ce qu'il ne connaissait pas l'état de l'humanité? Est-ce qu'il n'était pas conscient de ce qui se passait? Et pourtant, il y a quelque chose que Jésus vit qui ressemble à notre expérience à nous. C'est comme si Dieu, avec des yeux d'homme, est venu voir de visu l'état du monde. Christ incarné, éternellement conscient de l'état de péché dans le monde, est venu voir de ses yeux l'état du monde. Et il est bouleversé en regardant cette foule. Il la regarde et la trouve languissante et abattue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Matthieu est en train de nous dire que les gens sont fatigués de suivre Jésus? C'est une fatigue physique. C'est de quoi Jésus parle lorsqu'il dit ça? Jésus regarde toutes ces foules en allant de ville en village. et il y a quelque chose qui le frappe. Il y a un constat qui s'impose à son cœur. Il regarde tous ces gens et il trouve ces foules languissantes et abattues. Matthieu nous explique ce que Jésus voit. Il dit, « Elles étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. » Il regarde tous ces gens et il dit, « Ces gens ne sont pas conduits. Ils ne sont pas dirigés vers Dieu. Ils n'ont pas de berger qui les conduisent à Dieu. » Alors, il voit ces gens et qu'est-ce que ces foules font? Elles vivent pour mourir. C'est ça qu'elles font. Ces gens vivent pour mourir. Parce que les dirigeants religieux, ceux qui sont censés les conduire à Dieu, ceux qui sont censés les aider à comprendre le sens de la vie sur terre, ce qui fait qu'on peut traverser ce passage sur terre avec paix, avec joie, dans l'appréhension de l'éternité, en attendant un bonheur céleste éternel qui vient nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a le péché dans le monde, à quoi toute cette souffrance rime, pourquoi c'est là, tout ce qui vient donner sens à la vie. Les chefs religieux ne les aidaient pas à comprendre ça. Et donc, cette foule était là et suivait le flot tout simplement, embarquée dans toutes sortes de systèmes religieux, toutes sortes de pratiques, toutes sortes de fables, toutes sortes de nouvelles lois. Elle vivait pour mourir. Ces gens vivaient pour manger et mourir parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient sans direction par ceux qui étaient censés les diriger. Pourtant, tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants étaient des créatures de Dieu. Voyez-vous, tous les êtres humains qui nous entourent lorsqu'on va prendre le métro, lorsqu'on sort d'ici, on a tendance dans notre esprit, après quelques temps de vie chrétienne, à faire une espèce de séparation. Il y a ceux qui sont de Dieu, il y a ceux qui ne le sont pas. Et donc, on comprend que tant de gens vivent comme sans Dieu. On trouve un sens à ça. Mais tous les gens qui nous entourent sont des créatures de Dieu. Chaque homme, chaque femme sur cette terre a été fait, a été créé pour un but. Dieu est notre créateur à tous. Alors le bonheur pour tous se trouve auprès de Dieu. Le bonheur pour tous les hommes se trouve auprès de Dieu, à glorifier Dieu en l'aimant, en obéissant à sa parole, en aimant les gens autour de nous pour la gloire de Dieu. On a été créés pour ce but-là. Chacun d'entre nous, que nous connaissions Dieu ou non, que nous ayons été conduits à Dieu ou non, nous avons été créés pour ce but-là. C'est l'objectif. Nous avons été créés pour sa gloire. Mais les bergers qu'il y avait sur ce peuple à l'époque se servaient du peuple pour assouvir leurs propres passions. Ces gens-là étaient là pour montrer qu'ils étaient meilleurs, plus religieux, plus droits, respectant mieux la loi. Ils étaient là pour être appréciés des foules, pour avoir un standing à travers leur direction comme chef religieux, tout sauf conduire ces gens à Dieu. Tant et si bien que lorsque le Messie s'est pointé, ils n'ont pas pu le reconnaître. Parce que la religion ne servait pas à connaître Dieu, mais à observer des lois, à croire dans toutes sortes de choses, à les justifier, à servir leur passion pour qu'ils soient remarqués par les gens du peuple et qu'on les estime. Ces gens-là, ces bergers, ne conduisaient pas les gens vers la personne de Dieu, là où se trouve le vrai bonheur. Et les choses n'ont pas tellement changé. Les choses n'ont pas tellement changé. Plus ça change, plus c'est pareil. Aujourd'hui, je veux dire, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, les choses n'ont pas changé. Regardez la société autour de vous. Les gens ont-ils des bergers qui les conduisent à Dieu, qui les aident à comprendre que le sens de la vie, le sens du bonheur, le sens de l'éternité se trouve en Dieu? Est-ce que les gens ont des bergers qui les aident à trouver ça? Pas du tout. Pas du tout. Les gens vivent aujourd'hui pour mieux vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la doctrine de ce siècle en Occident, au Québec, aujourd'hui, c'est vivre pour mieux vivre. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est vivre pour mieux vivre. Ils vivent pour leur journée de congé. Ils vivent pour leur carrière. Ils vivent pour leurs vacances. Qu'est-ce que les gens attendent? Quand vous parlez avec le monde, qu'est-ce que les gens attendent? Trouver la paix en Dieu? Non, ils attendent leurs vacances. Ils attendent leur retraite. Ils attendent quoi? Les gens attendent la fin de semaine pour se reposer. Ils attendent le prochain film qui va sortir. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent? Le sexe? Beaucoup de jeunes. Je sais que ce n'est pas toute la jeunesse. Beaucoup de jeunes vivent pour le sexe. C'est absolument incroyable à quel point c'est l'affaire. Puis avec n'importe qui. Donc, ce qu'ils attendent, c'est le sexe, le fun, pouvoir séduire, pouvoir acheter. Il y a des gens qui vivent pour acheter. Vous savez ça? Il y a des gens qui vivent pour acheter. C'est ça le sens de leur vie, c'est acheter. Le plus grand repos, le plus grand bonheur dans la vie, c'est d'acheter, accroître ton pouvoir d'achat. C'est pour ça que tu vis, c'est accroître ton pouvoir d'achat. Ainsi, il y a des gens qui ne vivent que pour ça, pour pouvoir avoir une espèce de standing, accroître leur pouvoir d'achat, vivre pour vivre des expériences. Pensez-y un instant, c'est de la folie pure. Après, on ne comprend pas pourquoi les gens sont épuisés. Pourquoi il y a une espèce de fatigue, de lassitude dans notre société? Mais c'est parce que les gens cherchent un sens à la vie dans quelque chose qui va se détruire. Cette semaine, si vous faites la lecture, si vous suivez le plan de lecture, on vient de commencer l'Ecclésiaste. On vient de commencer l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Je veux dire, si ton bonheur et le sens de ta vie reposent sur ce que tu vas pouvoir acquérir dans cette vie, tôt ou tard, il y a une grande fatigue qui va venir se placer sur ton cœur. Il y a un non-sens profond qui s'installe. Voyez-vous, plus ça change, plus c'est pareil. Les gens vivent pour mieux vivre car ils n'ont pas de berger qui leur apprend que le bonheur est en Dieu. Nous avons été créés pour Dieu. Nous vivons pour trouver notre plaisir en Dieu. Nous vivons pour le glorifier, pour l'aimer. Et ce qu'ils entendent, eux, c'est que nous vivons pour la retraite, pour le plaisir. Je lisais une pub cette semaine. Et soyons honnêtes, je veux dire, le grand berger, aujourd'hui, c'est la publicité. Êtes-vous d'accord avec moi? Le grand berger, c'est la pub, c'est la télé, c'est tout le monde en parle. Je ne suis pas capable. Je suis désolé, je ne suis pas capable. Des humoristes qui disent au peuple ce qui est bon pour eux. Mais j'aime l'humour, hein? J'aime le bel humour. Je ne suis pas capable. Je suis désolé. Le bon berger aujourd'hui, c'est la publicité. Alors, je lisais une publicité, voici ce que ça disait. Choisir tes tomates pour ton jardin, est-ce que ce ne serait pas le début du bonheur? Tu ne comprends même pas que quelqu'un peut écrire ça et y croire, tu sais? On est-tu vraiment si simple que ça? Non, c'est pas ça le début du bonheur. Le début du bonheur, c'est de connaître Dieu, d'aller acheter tes tomates, parce que j'aime le jardinage, hein? Je suis déjà en train de me préparer. Aller préparer ton jardin, planter tes plants de tomates, puis pendant que tu es en train de le faire, réaliser que c'est Dieu qui a créé ça. Et là, tu te dis, Seigneur, comme tu es bon envers cette terre qui fait tant de choses mauvaises, d'avoir fait de si belles choses, Seigneur. C'est ça le début du bonheur. C'est comprendre que c'est Dieu qui est derrière ça. Mais le bon berger aujourd'hui, c'est la publicité. Alors ces gens au temps du Seigneur vivaient pour vivre, pour mieux vivre, se faisaient embarquer dans toutes sortes de croyances, toutes sortes de lois religieuses qui les éloignaient de Dieu. Les gens aujourd'hui vivent pour mieux vivre. C'est la doctrine du siècle. Si on avait vécu à une autre époque, ça serait aussi ça. Ça se traduirait différemment, d'accord? V'là 100 ans au Québec, vivre pour mieux vivre, c'était vivre en observant des lois. Puis si tu observais assez de lois, tu allais gagner ton ciel. Et c'était ça, vivre pour mieux vivre, d'accord? Aujourd'hui, la doctrine est plus matérialiste. Mais c'est encore la même affaire. C'est encore la même chose. C'est vivre pour mieux vivre, cette fois-ci à travers le matérialisme. Mais plus ça change, plus c'est pareil. Parce que ces gens-là n'ont pas entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils ne savent pas qu'un sauveur est venu pour le pardon de leurs péchés. Ils ne savent pas que le repos, ce n'est pas écouter un film. C'est aller vers Dieu à la fin de ta journée et dire, « Seigneur, je suis un pécheur. Il y a des choses aujourd'hui que j'ai faites que je regrette, mais je sais que tu m'aimes en Jésus-Christ. » C'est ça le repos. C'est ça le vrai repos. Ces gens ne savent pas cela. Ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils ne savent pas que Christ est venu pour le pardon de leurs péchés, afin qu'ils soient réconciliés avec le Créateur et qu'ils vivent cette vie ici en paix avec Dieu, attendant une vie meilleure encore dans l'éternité. Ils ne savent pas cela et ils suivent le courant. C'est ça qui se passe. Ils suivent le flot. La doctrine, c'est vivre pour mieux vivre dans le matérialisme. Mes chers amis, si vous fréquentez cette assemblée depuis un bout de temps, mais que vous n'avez pas connu Jésus-Christ comme votre bon berger, vous suivez le courant. Vous suivez le courant. Vous vivez pour mieux vivre. Comme Marcel l'a dit tantôt, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Essayons juste d'en tirer le meilleur parti en attendant. Mais vous devez connaître Jésus-Christ comme votre bon berger. Ces foules étaient languissantes et abattues parce qu'il n'y avait pas personne pour les conduire au bon berger. Vous devez reconnaître en Jésus-Christ votre berger, simplement vous tourner vers lui et dire, « Christ, Jésus-Christ, sois mon berger. Conduis ma vie. Conduis-moi dans de verts pâturages. » Mes frères et sœurs, nous qui connaissons le bon berger, il nous faut aussi reconnaître que parfois on se comporte comme des petits-enfants qui, marchant dans une foule, perdent de vue leurs parents et on perd de vue le berger. Dernièrement, on est allé en vacances, puis à certains moments donnés, on est allé voir des feux d'artifice. On était avec Bastien, 8 ans, Jade, 10 ans. Jade est prévenante un petit peu. Dans une foule, elle est un petit peu plus inquiète aussi. Bastien est plus tête brûlée, un peu, la vie est belle. Dans une foule de 50 000 personnes après un feu d'artifice, tu lui tiens la main. Hein? Parce que Bastien, lui, dans une foule comme ça, et à un certain moment donné, on a croisé, on était dans une place où il y avait plein de canards. Littéralement, les canards vivaient comme près du monde. Fait qu'à un moment donné, il y avait une canne qui avait perdu 4 ou 5 canetons. Et nous, on est en train de marcher. Là. Bastien tient la main de papa. Là. Ça prend juste des canetons pour que Bastien il laisse aller la main de papa. Ça prend 3 secondes pour que Bastien lève la tête. Et ça s'est produit. Lève la tête. Ils sont où? Hey, le monde le dépasse de 3 pieds. 50 000 personnes. Voyez-vous, frères et sœurs, il nous arrive de nous comporter comme un petit enfant, même si nous connaissons le bon berger. Et on est en train de marcher à sa suite, puis pendant un instant, on détourne le regard du bon berger pour être distrait par quelque chose qui passe. Avouons-le, on est comme ça. On demeure pécheur. On détourne les regards du bon berger pour être distrait, et lorsqu'on lève les regards, on est perdu. Christ est le bon berger. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait lorsqu'on a vu qu'on avait perdu Bastien? Hey boy, tassez-vous! Hey, les walkie-talkies est allumé, je peux vous le dire, puis on est parti. Quand je l'ai rencontré, Bastien, j'ai dit, est-ce que tu commençais à t'inquiéter? Puis ses yeux m'avaient déjà donné la réponse. Puis là, il m'a dit, papa, quand j'ai vu que j'étais tout seul, j'ai dit, Dieu aide-moi. C'est ça que vous devez faire, frères et sœurs. C'est ça que vous devez faire si vous avez perdu le bon berger de vue. Soyez pas inquiets, il est déjà en train de vous chercher. Il est déjà en train de vous chercher. Parce que voyez-vous, nous sommes pécheurs. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est que le bon berger est venu donner sa vie pour les brebis. Alors pécheurs nous sommes, pécheurs nous demeurons jusqu'à la fin. Il va y avoir des moments où on va détourner les regards du bon berger. Revenez à la maison. Sachez qu'il est déjà en train de vous chercher. Repentez-vous, prenez un temps d'arrêt. Repentez-vous. Admettez que vous êtes en train de suivre le courant, suivre le flot. Vous avez perdu de perspective, la perspective du royaume. Vous ne vivez plus pour le royaume, mais vous suivez le courant de ce siècle. Vous vivez pour mieux vivre. Prenez un temps d'arrêt, entrez en vous-même. Faites une mise au point. Repentez-vous. Car si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui notre bon berger. Il vous attend. Il vous attend. Fixez le regard sur le bon berger. Après que Jésus a regardé toute sa foule, toute cette foule, après dans tout ce ministère, Matthieu nous dit ici qu'il a été ému de compassion. Le texte, littéralement, c'est vraiment intéressant parce que là, la langue vient nous rejoindre dans notre langage québécois. Littéralement, c'est qu'il a été remué dans ses entrailles. Il a été pogné dans ses tripes. par la vision qui lui était offerte. Il a été bouleversé. Jésus-Christ est merveilleux. Parce qu'il travaille à fond, il se donne pour annoncer, il met énormément d'énergie. Et non seulement il se donne à fond, il voit tous les besoins, tellement de besoins, tellement d'âmes qui sont égarées, qui ont besoin d'un berger. C'est comme si Matthieu nous disait que Jésus a vu quelque chose avec ses yeux d'homme. On vit à une époque incroyable, hein, où il nous est donné de voir des choses avec nos yeux qu'aucun homme a pu voir si ce n'est Christ. On vit à une époque bouleversante sur le plan de l'information. Et remarquez bien, c'est ça qui est en train de se passer avec Jésus, d'accord? Il exerce son ministère, il voit les foules sans Dieu. Il le voit avec ses yeux. Sur le plan de l'information, on vit à une époque incomparable. Jamais les hommes ont vécu ça. J'oserais jamais dire qu'on pourrait se comparer à Dieu parce que Dieu voit des choses qui sont cachées aux yeux. Dieu voit les larmes, Dieu voit les cris dans les cœurs. Alors évidemment, on ne voit pas comme Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu le film Bruce le Tout-Puissant. Vous avez vu ça? Dans le film Bruce le Tout-Puissant, Jim Carrey, à un certain moment donné, se voit donner un pouvoir par Dieu. Dieu intervient, puis là, Dieu lui donne le pouvoir de faire à peu près tout ce qu'il désire, un pouvoir divin, mais avec les responsabilités aussi de Dieu. Alors, dans le film, à un certain moment donné, Jim Carrey, comme Bruce, commence à entendre des dizaines et des dizaines, sinon des centaines de voix dans sa tête. Ce sont les prières des hommes qui monte vers Dieu. Et ça devient insupportable, ingérable comme information et comme fardeau à porter. Puis là, dans le film, Dieu dit à Bruce, il lui dit, écoute, c'était juste ton quartier, là, un petit bout de ville là, que je t'ai fait entendre. Je ne pourrais pas te donner la terre à entendre. Alors, voyez-vous, on ne sera jamais comme Dieu. D'accord? Jamais on ne pourra voir tout ce qui se passe dans les cœurs, toutes les larmes, toutes les souffrances, tout ce qui se passe dans le secret. On ne peut pas saisir ces choses-là. Mais en même temps, on vit à une époque incroyable. Là, 100 ans seulement, les informations arrivaient par poste. Alors, les drames, on les apprenait au compte-gouttes. Tu as le temps de les absorber. Êtes-vous d'accord avec moi? Tu les apprends au compte-gouttes. Tu as des nouvelles de la guerre, semaine après semaine. Ça arrive par bateau. Et puis, on apprend les nouvelles. Aujourd'hui, il s'agit qu'un jeune homme entre dans une école avec une arme à feu en Australie pour que nous l'apprenions quelques heures après. Alors, notre perspective du monde change. Et je crois que ça change notre vision et que ça vient nous changer à l'intérieur. Nous sommes conscients de la misère de l'humanité. Et il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, on s'entend. Mais quand tu allumes la télé, ce qui ressort, ce que tu ressens, ce sont les guerres, c'est la douleur, ce sont les souffrances, ce sont les drames, ce sont les catastrophes géologiques, c'est à quel point la planète va mal. Et je crois non seulement qu'on ferme le poste de télé, mais je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se ferme aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je crois que c'est propre à nous amener à une certaine désensibilisation. Je pense que c'est la réponse humaine naturelle. Tu ne peux pas comme prendre toujours tout ça et recevoir toutes ces informations-là. C'est comme trop. Il faut à un moment donné qu'il y ait... Et c'est la tendance naturelle. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous à un moment donné qui veut se fermer puis dire, écoute, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse devant tout ça? Remettons les choses à perspective humaine, c'est trop. Trop de compassion qu'on me demande, beaucoup trop d'informations. Et on préfère passer à autre chose. Maintenant, regardez ce que Jésus fait dans ce passage. Il se promène de ville en village, partout où il va, les gens viennent à lui pour l'entendre, pour entendre son message, pour être guéri. Les foules se pressent autour de lui pour le toucher afin d'être guéri. Il travaille d'arrache-pied et c'est clair dans le texte. C'est très, très clair dans le texte parce qu'il va le dire lui-même. Humainement, il ne suffit pas à la tâche. Prenez la mesure de ça un instant, là. C'est qui ici qui dit qu'il n'y a pas assez d'ouvriers? Je veux dire, si lui dit qu'il n'y a pas assez d'ouvriers, l'ouvrier par excellence, qui suis-je? Alors lui-même, à vue humaine, constate les choses et il dit, l'ouvrier par excellence ne suffit pas à la tâche. C'est ça qu'il dit, non? Il voit tout ça, il est touché, il est ému de compassion, tout le contraire d'être désensibilisé. Il est sensible à notre condition. Et pensons-y un instant, lorsque Jésus fait ça, ça fait quoi, 2000 ans? Lorsque Jésus fait ça, ça fait déjà des milliers d'années que Dieu, sur son poste de télé céleste, ça fait des milliers d'années que Dieu écoute les nouvelles, puis les nouvelles ne sont pas bonnes. Ça fait des milliers d'années. Chaque fois qu'il allume le poste, à chaque seconde, à chaque moment, parce qu'il est conscient de tout ce qui se passe sur la terre, à chaque instant, il reçoit comme écho la misère humaine. Depuis des milliers d'années, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour Dieu. Et quelle est sa réponse? Quelle est sa réaction après des milliers d'années de mauvaises nouvelles? Est-ce que Dieu décide de fermer son poste et de passer à autre chose? J'ai presque le goût de dire qu'il l'a fait une fois. On appelle ça le déluge. On va recommencer, OK? On recommence. Dieu aurait pu le faire, Dieu pourrait le faire à tout moment. Nation, peuple, créature ingrate, je vais passer à autre chose. Débrouillez-vous, je m'en vais ailleurs. On va créer quelque chose d'autre. Il a même menacé à plusieurs reprises de le faire. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu reçoit toutes ces mauvaises nouvelles. Et plutôt que de se refermer sur lui-même, plutôt que de se désensibiliser, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de venir se salir les mains. C'est ça qu'il fait. Il décide de venir se salir les mains et il décide de venir marcher et voir de visu, de ses propres yeux, la misère humaine dans la personne de son Fils. Après des milliers d'années à recevoir toutes ces mauvaises nouvelles, ce que Dieu fait, sa réaction, sa réponse selon son plan établi de toute éternité, il vient prendre contact avec la misère humaine de visu dans la personne de son Fils. Il vient marcher au milieu des hommes. Et c'est ce que Jésus est en train de faire ici, allant de ville en village. Rappelez-vous le début de l'évangile de Matthieu? Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est Dieu qui vient marcher au milieu des hommes, faire un constat lui-même, intervenir, se salir les mains lui-même au milieu des hommes. L'ange a dit à Joseph, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est celui qui viendra délivrer son peuple de ses péchés. Après des milliers d'années de mauvaises nouvelles, qu'est-ce que Dieu décide de faire? Il décide de venir se salir les mains lui-même. Il vient dans la personne de son Fils. Et lorsque Dieu incarné, Emmanuel, Dieu parmi nous, va de ville en village, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, il est frappé par la misère des hommes qui ne vivent que pour mourir sans comprendre le sens de la vie. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas de berger. Et là, Jésus fait quelque chose d'incroyable dans le passage. À ce moment précis, il se passe quelque chose. Jésus-Christ transmet un message à ses disciples. Voyez-vous, Jésus, à ce moment-là, devant ce constat, ne se retire pas seul dans la prière. Est-ce que vous voyez ça dans le passage? Verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Alors il dit à ses disciples, Christ, à ce moment-là, ne se retire pas seul dans la prière. Vous avez l'ouvrier par excellence. Il ne se retire pas seul dans la prière pour se tourner vers son Père qui l'exauçait tout le temps, chaque fois qu'il priait, le Père exaucait. Il ne s'en va pas vers son Père pour dire « Père, il faut qu'on se relève les manches, on a du travail à faire. » Je l'ai vu avec mes yeux, c'est clair, ça va vraiment mal. C'est pas ça qu'il fait. Ce n'est pas ça qu'il fait à ce moment-là. Il ne se retire pas dans la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers ses disciples. Il se tourne vers ses disciples. Et il leur dit, venez ici. Lisez entre les lignes avec moi, c'est ça qu'il fait. Il leur dit, venez ici, regardez. Gardez les yeux ouverts. Gardez les yeux ouverts et regardez avec mes yeux l'état de ce monde. Ces foules qui n'ont pas de berger. C'est ça qu'il fait, n'est-ce pas? Il invite ses disciples, il dit, non, ne fermez pas les yeux. Ne fermez pas les yeux, ne fermez pas votre cœur devant toute cette misère. Ne vous désensibilisez pas lorsque vous entrez dans le métro et que vous voyez toutes ces foules. Ne vous dites pas, ces gens-là ont choisi une autre voie. Dieu en sauvera deux, trois. Ne fermez pas les yeux lorsque vous sortez d'ici et que vous voyez l'état du Québec, lorsque vous voyez la jeunesse. Ne fermez pas votre cœur. Ouvrez les yeux et acceptez de porter avec moi ce regard de compassion. Gardez les yeux grands ouverts, parce que vous êtes mes disciples. Parce que vous êtes mes disciples. Regardez ces gens que vous allez côtoyer dans le métro cette semaine. Regardez vos amis à l'école. Et je sais, lorsqu'on les regarde, on se dit, comment pourrait-il aimer le berger que moi j'aime? C'est impossible. C'est impossible qu'il se convertisse à Christ. Je veux dire, il se moque de ça, il trouve ça ridicule. Dieu, Dieu, c'est quoi Dieu? On vit pour vivre, puis let's go, le sexe, le fun, on va aller triper, puis après ça, on mourra, puis ça finit là. Nous sommes des rats. Nous naissons, nous mourrons. Tripons en attendant. Et c'est impossible à notre esprit de dire comment tu pourrais convertir des gens comme ça. Mais ce que Christ demande ici, ce n'est pas les résultats. Ce que Christ demande ici, c'est le regard de compassion. Ce que Christ demande ici, c'est que vous ne fermiez pas le poste de télé et que vous regardiez ce monde comme lui le regarde. Ce que Christ demande ici, c'est qu'à l'intérieur de vous, ce qui peut être fermé parce que ça devient insupportable, s'ouvre et que vous voyez cette foule comme Jésus la voit. Parce que très bientôt, Jésus va nous dire que sa compassion, c'est notre mission à nous. Très, très bientôt, Jésus va le dire. Alors, nous devons avoir ses yeux à lui, garder les yeux grands ouverts et se laisser bouleverser. Se laisser bouleverser par le monde qui nous entoure. Être troublé par ces jeunes qui vont entendre dans quelques mois que toutes les religions, c'est la même affaire. C'est ça qu'ils vont entendre. Lui, il croit en ça, tu vois, c'est un bon gars. Lui, il croit en ça aussi, des choses différentes, tu sais, fait qu'il doit avoir du bon un petit peu dans tout ça, puis on va amalgamer ça ensemble. Se laisser toucher par le peuple québécois qui semble tellement fermé à l'Évangile, tellement peu intéressé, tellement matérialiste, qu'on dirait qu'on parle un langage vraiment étranger pour eux. Se laisser toucher par la misère qu'il y a dans le monde afin qu'il y ait des Melody Francis qui partent dans une folie complète. Elle est malade, cette fille-là. Elle a tout abandonné pour aller là-bas. Les Bascounianes qui sont partis. Hugo et Lynn qui sont partis pour la mission. Mais ça, c'est plus tard. Ça, c'est plus loin. Tout ce que Jésus nous demande à ce point-ci, c'est d'ouvrir les yeux et d'avoir son regard. Et là, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que voyez-vous, quand vous commencez à ouvrir les yeux et à regarder ce monde comme Christ le voit, comme Dieu le voit, vous allez faire comme lui. Vous allez pousser un gros soupir. C'est ça que Jésus fait ici. Il pousse un énorme soupir. Et il dit, il y a tellement de travail. Il y a tellement de travail pour atteindre ces âmes qui périssent faute de berger. Et Jésus, à ce moment-là, fait quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez pas porter dans votre cœur la compassion de Dieu, la mission de Dieu, sans faire ce que Jésus fait ici. Revenez dans le passage avec moi, au verset 38, Jésus dit, Verset 37. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et ce que Jésus fait ici, c'est qu'il nous rappelle qu'il y a un maître de la moisson. Dieu est encore là. Le maître de la moisson est encore là. Il n'a pas fermé son poste télé. Il est encore en train de regarder tout cela. Il n'est pas dépassé. La moisson est immense, mais il y a un Dieu souverain, un Créateur, un Père céleste qui préside à l'avenir de cette humanité. Devant toutes ces foules perdues, ce que Jésus nous dit de faire, c'est de nous tourner vers le Père, le maître de la moisson. Et si on ne le fait pas, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut se lancer dans l'œuvre par nos propres forces. La course va être très, très courte. Très, très courte. Quand tu ne te tournes pas vers Dieu pour prier, tu fais l'œuvre sans la foi et très, très rapidement, le poids devient insupportable. L'amertume s'installe dans ton cœur parce que les résultats ne viennent pas. Je vous parle par expérience, frères et sœurs. Si tu ne te tournes pas vers le maître de la moisson, la charge est insupportable. Il faut que tu te rappelles qu'il y a un maître de la moisson qui est là, qui préside à tout ça. L'autre chose qui peut se produire si tu ne le fais pas, c'est que tu vas fermer ton cœur. Et tu vas dire, OK, Dieu a appelé Mélodie. Ah, Dieu appelle des gens, c'est beau à voir. Hein? Dieu a appelé les Baskounian. Dieu a appelé Hugo et Lynn. Dieu les a appelés, eux autres. Tu vas fermer ton cœur à l'appel que Dieu place sur ton cœur à toi. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Tout ce que Dieu nous demande ici, c'est d'ouvrir les yeux pour voir le monde tel qu'il est. D'ouvrir les yeux cette semaine quand vous allez embarquer dans le métro. De garder votre cœur grand ouvert quand vous allez allumer votre poste de télé. D'accepter que vous avez de l'information et que le constat n'est pas tellement bon. De prendre ça et de le regarder avec les yeux de Christ. Quand Jean-Guy et Claire vont embarquer sur la route cette semaine, ou la semaine prochaine, qu'ils vont croiser toutes ces villes, quand vous voyagez même à travers le Québec, 1000 villes et villages, tant de gens qui n'ont pas de berger, gardez les yeux ouverts. Puis faites une chose. Tournez-vous vers le maître de la moisson et lancez le même cri que Christ. L'ouvrier par excellence a fait un constat. Ça va nous prendre du monde pour faire le travail. Alors, on va se tourner vers le Père. On va se tourner vers le Père avec conviction qu'il n'a pas perdu le contrôle, qu'il va venir sauver ses élus, qu'il va envoyer des ouvriers dans la moisson. Et évidemment, vous voyez déjà le Seigneur venir. Hein? Quand tu commences à prier pour qu'il envoie des ouvriers, ça se peut que tu sois enrôlé assez vite. Ça, c'est pas grave. Ça. Le Seigneur va le disposer dans le cœur. Il va accorder la grâce. Frères et sœurs, ce que je veux vous demander de faire cette semaine, je vais essayer d'être pratique cette fois-ci. Je vais vous donner un devoir. Un devoir. Très simple. Je veux vous demander que cette assemblée s'engage chaque jour cette semaine. Je ne vous le demande pas pour la semaine prochaine. Juste cette semaine. On a 7 jours devant nous avant de se revoir, toute l'Assemblée. Je vous demande de vous engager devant Dieu à prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien sûr, Dieu va changer vos cœurs à travers ça. Bien sûr, vos yeux vont s'ouvrir sur la moisson. Ça va devenir inquiétant, ça va devenir décourageant, bien sûr. Mais c'est dans la prière qu'on apprend à marcher par la foi. C'est lorsqu'on va au pied du maître et qu'on dit, « Seigneur, la moisson est trop grande, je ne crois pas que tu vas envoyer des ouvriers. Seigneur, la moisson est trop grande, je doute de ta capacité à sauver, Seigneur. » Est-ce que vous êtes prêts à vous engager avec moi, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts à vous engager avec moi? La semaine prochaine, c'est moi qui fais les annonces. Je vais être le gardien de votre engagement. Je vous demande une chose. Tous les jours de la semaine, on est 300 quelques ici ce matin, il y a plusieurs chrétiens parmi ça. Est-ce que vous vous engagez? Et j'aimerais avoir votre réponse, frère et sœur. Est-ce que vous vous engagez à prier tous les jours cette semaine, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson? Et Dieu va faire la différence. Parce qu'il est au contrôle, devant toute cette misère, il la porte sur son cœur. Dieu va transformer cette église et il va nous envoyer dans la moisson. On va prier ensemble. Père, c'est lorsqu'on ouvre notre poste de télé que nous constatons ta bonté. Père, c'est lorsque nous nous rendons à l'église le dimanche matin et que nous voyons les routes vides de voitures que nous constatons ta bonté, ta patience. Tu ne tardes pas, Seigneur. Tu uses de patience avant de revenir. Seigneur, je te prie pour cette église et pour mon propre cœur, Seigneur. Alors que je vais me rendre chez moi tout à l'heure et que je vais entrer dans mon quartier avec l'auto, je te prie, Seigneur, de me donner tes yeux. Que je ne vois pas ce monde comme ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ouvre mes yeux cette semaine. Ouvre nos yeux afin que nous voyions ce monde comme toi tu le vois, Seigneur. Seigneur, des milliers de personnes vont se rendre à Québec cet été et il manque d'ouvriers. Il manque d'ouvriers, Seigneur, pour aller proclamer Jésus-Christ à Québec 2008. Il manque d'ouvriers pour gagner le Québec à toi, Seigneur. Et tu as une foule à sauver. Nombreux sont tes élus, Seigneur, dans cette ville, dans cette province. Seigneur, je te prie d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Envoie des ouvriers bons maîtres. Tu vois l'état de ce monde, Seigneur. Et nous attendons avec foi. J'attends, Seigneur, avec conviction que tu viennes déployer toute ta puissance pour envoyer des ouvriers dans cette moisson. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.